Cinéphage, l'émission du son et des images.
Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 169 spécial Ciné 2000-2010 classique. Pour cette émission, toujours enregistrée dans les conditions spéciales à la maison et avec à la technique de Radioactive, mon compère David. Nous allons donc, toujours en cette période de disette de grand écran, vous inciter à voir ou revoir quelques classiques de ces films des années 2000-2010 qui seront à découvrir ou découvrir chez vous. En ce moment difficile, nous allons revenir dans ces années 2000 et essayer de vous faire partager cette période récente où le cinéma était toujours important et souvent la sortie entre copains du week-end. Et oui, ça nous manque, vivement que ça revienne. Et nos choix, comme d'habitude, sont non exhaustifs et divers afin de continuer à dévorer ensemble films et séries avec motivation et sans modération en ces temps de disette. Alors, j'ai commencé comme d'habitude par les films français. Alors, j'ai pris Un prophète, un film de 2009 de Jacques Audiard avec Taha Rahim et Reda Kateb, et puis Neil Harris-Roup dans le rôle du vieux patriarche de la prison. Donc, condamné à 6 ans de prison, Malik El-Jaberan est illettré, il sait pas lire ni écrire, et à son arrivée dans la centrale de prison, il paraît bien sûr un détenu fragile et à la portée des autres détenus un peu plus briscards, et on va voir un petit peu la vie en prison à travers ce film. J'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Et toi, David, l'as-tu vu ce film?
Non, je n'ai pas vu ce film.
En plus, moi j'adore les deux acteurs que sont Taha Rahim et Reda Kateb, qui depuis le temps ont super évolué justement, et c'est intéressant de les voir dans leur carrière. Ensuite, là, un film que tu as revu, j'en suis sûr, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de 2001, de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, c'était un peu le rôle qu'il a révélé au grand public, et Mathieu Kassovitz, Rufus, et puis on avait Jamel Debbouze dans un petit rôle aussi. Alors, c'est l'histoire d'Amélie, qui n'est pas une jeune fille comme les autres, puisque son grand plaisir consiste à observer les gens, et elle aime bien faire le bien autour d'elle, et donc un monde tout à fait comme d'habitude à la Jean-Pierre Jeunet et son complice Caro, souvent, voilà, c'est des univers bien décalés. Donc, puis avec une super musique de Yann Tiersen, si je me souviens bien. Donc, as-tu vu ce film, David?
Oui, je l'ai vu, et oui, c'est bien Yann Tiersen, franchement, super musique. J'ai trouvé ça super sympa comme idée, parce que ça change en fait du film classique.
Oui, c'était une comédie, justement, pas les comédies franchouillardes qu'on a l'habitude, et là, c'est vrai que c'était plein de poésie. C'était assez sympa. Alors là, tout autre domaine, mais pour moi, c'est la meilleure adaptation pour moi d'Astérix et Obélix en version ciné, sans parler bien sûr des films d'animation qui étaient pas mal, mais là, c'est de toutes les adaptations, je pense que c'est le meilleur, celui d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, de et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Dieudonné, Gérard Depardieu, Christian Clavier dans les rôles titres, et puis plein de petits rôles tout à fait savoureux. Alors ça se passe à Alexandrie, la ville égyptienne, en 52 avant Jésus-Christ. Cléopâtre, la reine d'Égypte, désireuse de prouver la supériorité du peuple égyptien, va relever un défi de son amant César. L'empereur romain, joué par Alain Chabat, c'est de construire un palais en 3 mois. Pour cela, Cléopâtre va faire appel à l'architecte numéro bis, et s'il réussit, elle le couvrira d'or, si il échoue, elle le jettera au crocodile. À l'époque, c'était comme ça. On était récompensé ou châtié de manière extra. Alors celui-ci, conscient que le défi à relever est vraiment énorme, et il va demander de l'aide auprès d'un vieux copain, gaulois Panoramix, le fameux druide. Donc décide de faire le voyage en Égypte, accompagné de ses deux acolytes Astérix et Obélix, et de son côté, Amon Beaufils, qui est l'architecte officiel de Cléopâtre, joué par Gérard Darmon, est jaloux que la reine ait choisi numéro bis pour construire le palais, et elle va tout mettre en œuvre pour faire rater toutes les tentatives de son concurrent. Donc une adaptation Chabat, avec l'humour des nuls et entouré, comme je disais tout à l'heure, d'une super brochette d'artistes français et étrangers. Je pense que tu as vu ce film, David.
Oui, je l'ai vu, super sympa.
C'est vraiment, pour moi, la meilleure adaptation.
Je suis tout à fait d'accord.
Ensuite, eh bien, un film qui m'a vraiment touché, c'est Nos jours heureux de 2006, de Eric Toledano et Olivier Nakache. Donc c'était bien avant le succès d'Intouchable, c'était un des premiers succès d'Eric Toledano et Olivier Nakache, et retrouver Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Marie-Lou Berry, et donc c'est une histoire qui se passe dans un domaine qui m'est cher, puisque c'est l'animation, c'était mon premier métier, et donc c'est l'histoire de Vincent Rousseau qui va diriger pour la première fois de sa vie une colonie de vacances. Alors dès le départ en train, les enfants sont ingérables comme d'habitude. Alors il y a toujours les petits problèmes itinérants aux colonies, il y en a une qui a perdu sa valise, l'autre carré qui veut savoir sans arrêt où on va, qu'est-ce qu'on va faire, qui c'est les animateurs, enfin les questions traditionnelles. Et ils arrivent bien sûr au château qui leur sert de colonie, et les animateurs et les enfants vont s'installer et vont commencer alors le quotidien houleux de cette colonie, entre animateurs complètement déjantés, une direction folle, et puis d'entendre parler du cuisinier, du père de Jean-Paul Rouve qui est un ancien directeur, enfin il y a tout un tas de quiproquos. Donc j'ai trouvé ça assez réaliste, même si c'est un petit peu caricatural sur certains points. Mais on retrouve, pour les gens qui ont connu les centres de loisirs ou les colonies de vacances, on voit qu'il y a du vécu derrière. As-tu vu ce film, David ?
Non, je ne l'ai pas vu, Alain.
Ah, absolument à voir. Tu passeras un bon moment, c'est un feel-good movie, comme on dit. Tu passes un bon moment et justement, là, on découvrait des acteurs qui allaient devenir les stars d'aujourd'hui, que sont, comme je disais, Omar Sy, Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry. Et donc, il y a tout un tas de... aussi de situation vraiment sympa à voir. On passe ensuite dans le fantastique avec Belphégor, le fantôme du Louvre de 2001 de Jean-Paul Salomé, où on retrouvait notre Sophie Marceau nationale, le regretté Michel Serrault et Frédéric Diefenthal dans les rôles principaux. Alors ça se passe dans le Paris des années 2000, hein, le sarcophage d'une momie au pouvoir maléfique refait surface après avoir été retrouvé dans une réserve pendant les travaux du Grand Louvre. La momie va donner naissance à un fantôme qui va provoquer tout un tas de dysfonctionnements électriques dans le système de la sécurité du Louvre. Sans se douter des dangers que la momie représente, Bertrand Fossier, qui est le directeur du Louvre, il va charger Glenda Spencer, jouée par Julie Christie, une éminente égyptologue anglaise, de découvrir l'origine de la momie. Et en parallèle, il y a une histoire, celle de Lisa, jouée par Sophie Marceau, une jeune femme qui vient de perdre sa grand-mère et qui habite juste en face du musée du Louvre, qui va faire la rencontre de Martin, qui est un électricien dont elle va tomber amoureuse, joué par Frédéric Diefenthal. Donc, une nuit, en poursuivant son chat qui s'est échappé dans un chantier sous l'immeuble de Lisa, elle et Martin vont se retrouver dans le Louvre. Donc, bien sûr, c'est série télé dont on avait parlé dans Cerivore avec Juliette Gréco, qui a été l'inspiration, bien sûr, de ce film. As-tu vu le film, David ?
Oui, j'ai vu le film, c'était pas mal aussi comme adaptation.
Moi, j'avais trouvé justement assez sympa de remettre, parce que la première série se passait dans les années 50-60, là, de remettre ça dans les années 2000, j'avais trouvé le thème assez sympa, et comme je disais, j'encourage toujours, moi, les films un petit peu de genre, et donc quand on prend un petit peu le risque de revisiter les films de genre et les anciennes séries, je trouve ça toujours assez sympa. Ensuite, Les Rivières Pourpres de 2000, de Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno et Vincent Cassel, hein, l'adaptation d'un roman de Gilles Granger, où on retrouve une légende vivante de la police qui s'appelle Pierre Niemans, joué par Jean Reno, qui va se rendre dans une ville universitaire, celle de Guernon, afin d'enquêter sur le meurtre du bibliothécaire de cette faculté locale, dont le corps a été retrouvé en montagne, suspendu dans le vide et sauvagement mutilé. Dans le petit village de Sarzac, à environ 200 km de Guernon, le jeune lieutenant Max Kerkerian, joué par Vincent Cassel, enquête quant à lui sur la profanation de la tombe d'une certaine Judy Hérault, morte dans un accident de circulation en 82 à l'âge de 10 ans. Et à Guernon, Niemans découvre un second cadavre qui porte les mêmes traces de mutilation que la première victime, et il n'est autre que le suspect recherché par Kerkerian. Donc, c'est le début d'une grosse enquête, d'un bon thriller, et avec une Nadia Farès aussi excellente. J'avais d'ailleurs bien aimé l'association avec Jean Reno et Cassel, et ça sera ensuite, on retrouvera une suite qui s'appellera Les Rivières Pourpres 2, et puis une série qui a été adaptée avec Olivier Marchal dans le rôle principal. As-tu vu ce film ?
Oui, j'ai vu ce film. Oui, je suis d'accord avec toi. Jean Reno et Vincent Cassel font une bonne paire. Hein.
Eh bien, nous allons faire une première pause musicale avec AC/DC, puisque c'est la bande originale d'Iron Man de 2008, un film qui avait relancé aussi les Marvel avec le film de John Favreau. On retrouvait un Robert Downey Jr. excellent aux côtés de Gwyneth Paltrow. Puis ensuite, on a eu bien sûr les suites, comme tout bon comics actuellement, malheureusement, pas toujours aussi réussi. Donc, place à AC/DC. dans les années 2000 classiques, avec bien sûr, alors là on va taper dans le gros classique, Gladiator de 2000 de Ridley Scott, avec Russell Crowe, Richard Harris et Joaquin Phoenix, sans compter tout un tas de stars internationales qui sont greffées ensuite au générique. Alors c'est l'histoire du général romain Maximus, le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qui l'a conduit à la victoire, et c'est quelqu'un qui est vraiment d'un dévouement et d'une bravoure exemplaire, fidèle à son empereur, qui décide de confier à Maximus le pouvoir, mais jaloux du prestige de Maximus et encore plus de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de Marc Aurèle, qui est plutôt un incapable et qui s'appelle Commode, mais qui n'est pas vraiment Commode, va s'arroger brutalement le pouvoir, puis va ordonner l'arrestation du général et son exécution, et qu'il le mettra, il le bannira et l'enverra finir comme gladiateur, donc d'où le titre Gladiator, donc la renaissance du film Peplum dans toute sa splendeur, une musique vraiment géniale, les décors vraiment fabuleux. Moi j'avais adoré ce film, et en plus j'avais eu la chance de le voir à Mont-Louis en grand écran sur l'espace Ligeria à l'époque, c'était en cinéma de plein air. C'était vraiment grandiose, donc à voir et revoir si vous pouvez au cinéma. Un des classiques que tu as vu.
Ok, oui, je l'ai vu, oui. Je l'ai revu il y a d'ailleurs pas longtemps sur une plateforme de films, et franchement, ouais, c'est un des meilleurs peplums que j'ai vu, hein, ça c'est sûr.
Ensuite, eh bien, j'ai choisi un autre classique, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl de 2003, de Gore Verbinski. On retrouve Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley dans les rôles principaux. Donc ça se passe dans la mer des Caraïbes au XVIIe siècle. Jack Sparrow, joué par notre ami Johnny Depp, est un flibustier gentleman et qui voit sa vie basculer le jour où son ennemi, le perfide capitaine Barbossa, va lui voler son bateau, le Black Pearl, et puis attaquer la ville de Port-Royal, et en enlevant au passage la belle-fille du gouverneur, Elizabeth Swann. Donc l'ami de l'enfance de celle-ci, Will Turner, va se joindre à Jack pour se lancer à la poursuite du capitaine Barbossa, mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ce pirate. Donc, hein, bien sûr, grande musique, grand décor, vraiment le film d'aventure tiré de l'attraction du parc de Disney, qui a fait bien sûr un carton, et il s'en est suivi 5 films. On parle d'une suite bientôt à nouveau. Bien sûr, tu as vu ce film.
C'est super sympa, ça parle de pirates, et en plus avec un côté décalé, un super Johnny Depp, et une suite sans capitaine Jack Sparrow ni Orlando Bloom, je trouve que, voilà, au bout d'un moment c'est Disney, mais bon, faut arrêter.
Donc, pour continuer, là on va partir plutôt dans le biopic historique, hein. C'est Le Dernier Samouraï en 2002 de Edward Swick, et où on retrouvait Tom Cruise aux côtés de Ken Watanabe. Alors ça se passe en 1864. Le capitaine Nathan Hal Green vit avec les souvenirs de batailles sanglantes menées entre autres contre les Sioux. Fort de son expérience au combat, il devient conseiller militaire pour le compte de l'empereur du Japon, soucieux d'ouvrir son pays aux traditions et aux commerces occidentaux, et aussi d'éradiquer l'ancienne caste dirigeante qui était celle des guerriers samouraïs. Mais ceux-ci vont avoir une influence importante sur le capitaine Hal Green, qui va se trouver bientôt prisonnier, mais adopté par eux, et son cœur va être pris entre deux feux, puisque au cœur d'une confrontation entre ces deux époques et deux mondes, avec pour le guider son sens de l'honneur, le capitaine Hal Green va vraiment utiliser et comprendre toute la philosophie du guerrier samouraï. Donc un film épique, grande bataille, grande réconstitution historique. Justement, moi j'avais bien aimé Tom Cruise dans ce rôle. Ça change un petit peu du Tom Cruise de Mission Impossible ou de Top Gun. Là c'était
où
plus historique,
et
j'avais bien
temps,
aimé ce film.
Là, je suis d'accord avec toi, un très bon scénario, donc un très bon film.
Donc, à conseiller, comme moi, je pense.
Ah oui.
Ensuite, eh bien, on va passer toujours dans l'aventure, mais dans l'aventure tirée de Conan Doyle, hein, parce qu'on sait qu'il a vraiment inspiré le cinéma, ce cher Arthur Conan Doyle, eh bien, c'est une version, la version Sherlock Holmes 2009 de Guy Ritchie, avec Jude Law et Robert Downey Jr. Rien à voir avec Iron Man, hein, où on retrouvait cet acteur. Alors, aucune énigme ne résistant longtemps à Sherlock Holmes, flanqué de son fidèle ami le docteur John Watson, l'intrépide et légendaire détective va traquer sans relâche les criminels de tout poil. Alors, avec ses fameuses armes qui sont le sens de l'observation et de la déduction, mais aussi son érudition et une curiosité tout azimut, accessoirement aussi une manière de combattre qui est vraiment très technique. Je vous renvoie vers l'ouverture de ce film. Sherlock Holmes va se retrouver en face d'une menace sans précédent qui plane aujourd'hui sur Londres, et c'est le genre de défi dont notre homme a besoin pour ne pas sombrer dans l'ennui et la mélancolie. Après une série de meurtres rituels ensanglantés à Londres, Holmes et Watson vont réussir à intercepter le coupable qui s'appelle Lord Blackwood, et à l'approche de son exécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des morts pour exercer la plus terrible des vengeances. Donc, moi, j'ai trouvé Guy Ritchie très en forme, puisqu'on retrouve, c'est quand même quelqu'un qui nous a décrit Londres aux différentes époques, je pense Arnaque, Crime et Botanique ou Snatch, entre autres. J'avais bien aimé la façon de tourner, l'humour aussi, qui n'est pas absent de cette version de Sherlock Holmes. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, David.
Oui, j'ai pensé la même chose, franchement, un Sherlock Holmes vraiment... vraiment bien décalé, bien dans son monde, hein, franchement. Et cette ambiance un peu noire aussi, je sais pas si t'es d'accord sur tout ce qui est que ça soit lumière, décor et autres, c'est bien sombre, c'est un Londres un peu sombre, mais ça donne super bien.
Et moi j'aime bien justement quand c'est vraiment l'époque victorienne pour les Sherlock Holmes. J'ai du mal avec les adaptations plus modernes, et moi j'adore quand ça se passe là, donc moi j'ai trouvé ça très réussi. Ensuite, eh bien, on reste dans l'historique avec 300 de 2006 de Zack Snyder, avec Gérard Butler et Dominique West dans les rôles principaux. Alors, c'est l'adaptation du roman graphique de Frank Miller, 300, qui nous raconte le récit de la bataille des Thermopyles, qui opposa en l'an -480, le duel qui opposa en l'an -480, le roi Leonidas et ses 300 soldats spartiates à Xerès, et l'immense armée perse. Alors, face à un ennemi qu'on pense invincible, les 300 vont déployer jusqu'à leur dernier souffle un courage surhumain. Leur vaillance et leur héroïsme qui va jusqu'au sacrifice vont inspirer toute la Grèce à se dresser contre la Perse, et qui vont poser ainsi les premières pierres de ce qui sera la démocratie. J'ai bien aimé cette version et justement la manière un petit peu BD de mettre ce film en valeur, avec des acteurs qui tiennent la route, des combats et des scènes grandioses. Voilà, c'est vraiment épique. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on apprenait à l'école à l'époque sur la mythologie grecque et tout ça. Moi, j'ai trouvé ce film vraiment réussi, ainsi que sa suite qui aura lieu après.
Un très bon film, franchement, à voir les deux.
Et pour terminer, cerise sur les gâteaux, je dis bien les gâteaux parce que là, on a eu vraiment de la chance, c'est Le Seigneur des Anneaux et ses suites, hein, 2001, 2002, 2003, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, donc le roman de Tolkien mis en scène par le grand Peter Jackson, avec Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher Lee, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, hein, Liv Tyler, enfin bref, bien pour moi, c'est... Je rêvais un jour de voir le Seigneur des Anneaux mis en scène. Et bien là, c'est vraiment génial, parce que on a vraiment l'impression d'être dans le bouquin. Alors l'histoire se passe dans des temps mythiques, où l'histoire d'une bataille désespérée qui va s'engager entre les forces du bien et celles du mal. D'un côté, le jeune Frodo, qui a hérité d'un anneau magique offert par son cousin beaucoup plus âgé, Bilbo, et cette bataille va être contre le fameux seigneur noir Sauron, qui veut désespérément récupérer l'anneau, parce que cet anneau peut permettre de réduire les habitants de la Terre du milieu en esclavage, hein, ça c'est le projet de Sauron. Et dans son effort pour contrecarrer Sauron, Frodon va être aidé d'une une compagnie, dont une fameuse compagnie de l'anneau, qui sera entourée d'amis hobbits comme lui, et d'un magicien, de lutins, de nains, et le lutin, c'est le fameux elfe Orlando Bloom, le nain, c'est Rhys Davis, et quelques humains, et la mission, c'est de détruire l'anneau en le lançant dans les feux volcaniques. Ça va être vraiment une recherche épique, enfin, et plein de combats, plein de monstres. Cet univers d'heroic fantasy que j'avais découvert avec les jeux de rôle à l'époque. Là, vraiment, si vous aimez l'heroic fantasy, les jeux de rôle, c'est vraiment le film à voir et à ne pas louper. Ainsi que, un petit peu plus tard, on a parlé de Bilbo, le cousin. Eh bien, il y a la trilogie du Hobbit qui raconte un peu cette histoire aussi. Donc voilà, et la boucle sera bouclée bien qu'on nous prévoie une série à venir. Bon, pas la peine de te demander, parce que je crois qu'on avait dû en voir quelques-uns ensemble, des Seigneurs des Anneaux.
Oui, c'est ça, et puis oui, franchement, le Seigneur des Anneaux, c'est un peu la trilogie quand même, un peu mythique maintenant, pour moi, ça c'est clair. Donc franchement, on attend la série avec impatience maintenant.
Oui, surtout, c'est ce qu'on disait en parlant l'autre jour de Jurassic Park, et bien c'est grâce à Jurassic Park et tous ces nouveaux effets spéciaux qu'on a pu enfin pouvoir mettre en scène le Seigneur des Anneaux, parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas pu avoir autant de figurants, autant mettre des batailles si gigantesques si on n'avait pas eu tous les moyens du numérique. Et là, c'était vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, la cerise sur le gâteau. Eh bien, je te propose de faire une seconde pause musicale avec un autre film des années 2000, exactement de 2001, celle de Moulin Rouge de Baz Luhrmann avec Ewan McGregor et Nicole Kidman.
A boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered every
Eh bien là, on va partir toujours dans les années 2000-2010, carrément 2010, puisqu'on va parler de Shutter Island, de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley et Mark Ruffalo dans les rôles principaux. Alors l'histoire se passe en 54, le marshal Teddy Daniels, accompagné de Chuck Hall, sont envoyés enquêter sur la fameuse île de Shutter Island, qui est un hôpital psychiatrique où sont internés tous les plus dangereux criminels. L'une des patientes, qui s'appelle Rachel Solando, a disparu. Et comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule de l'extérieur? Alors là, c'est un gros mystère. Le seul indice retrouvé dans la pièce, c'est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans apparente signification. Et c'est pour ça que nos enquêteurs vont partir. Alors donc, une ambiance bien glauque, un asile bien fou, hein, comme on dirait. Enfin, moi j'ai bien aimé cet univers et puis cette enquête. Et toi, David?
Franchement, j'ai adoré ce film. Une fin magique, hein, on n'en dit pas plus. Un DiCaprio qui joue super bien son rôle. Donc, franchement, c'est vraiment à voir.
On continue avec une adaptation animation. C'est Sin City en 2006 de Robert Rodriguez, Frank Miller et Quentin Tarantino, avec Bruce Willis et Mickey Rourke entre autres, et puis Jessica Alba, enfin tout un tas de personnages, acteurs vraiment fabuleux. Eh bien, Sin City, c'est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales. Artigan s'est juré de protéger Nancy, une stripteaseuse qui l'a fait craquer. Un marginal brutal, mais philosophe, part en mission pour venger la mort de son unique et véritable amour, Goldie. Dwight est l'amant secret de Shelley. Il passe ses nuits à protéger Gail et les filles des bas quartiers de Jackie Boy, un flic pourri, violent et incontrôlable. Certains ont soif de vengeance, d'autres cherchent leur salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice et du péché. Donc plein de petites histoires qui s'entremêlent, et moi j'avais trouvé ça vraiment super, cette adaptation, un petit peu comme 300, hein. C'est des formats qu'on n'est pas habitué de voir toujours au cinéma, et puis une ultra-violence, des couleurs, l'utilisation des couleurs, le machiavélisme de certains personnages, la double vie de certains autres, moi j'avais adoré, et ça a été au cinéma une superbe découverte que ce film. Et pour toi, David?
Eh bien, je ne l'ai pas vu, donc ça sera sûrement une superbe découverte.
Donc, à mettre sur ta liste. Ensuite, un polar signé Ron Howard en 2006. À Ron Howard, je vous rappelle que c'est le Richie des jours heureux, la série avec où il jouait le rôle d'Howard Cunningham, entre autres, et depuis, c'est devenu le grand réalisateur qu'on connaît, et il avait réalisé en 2006 Da Vinci Code avec Tom Hanks, Jean Reno et Audrey Tautou, entre autres. Alors c'est l'histoire tirée bien sûr d'un roman de Dan Brown, et c'est une nuit un professeur qui s'appelle Robert Langdon, qui est un éminent spécialiste de l'étude des symboles, va être appelé d'urgence au Louvre car le conservateur du musée a été retrouvé assassiné, mais avant de mourir il a laissé de mystérieux symboles. Donc à l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices vont converger vers une organisation religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret capable de détruire un dogme deux fois millénaire. Et donc l'aventure va se passer de Paris à Londres, puis en Écosse. Langdon et Sophie vont tout tenter pour déchiffrer ce fameux Da Vinci Code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements même de l'humanité. Il y a eu une suite, j'avais bien aimé le premier, après j'ai un peu moins accroché, mais le premier j'avais trouvé ça un bon thriller, et puis avec toujours un excellent Tom Hanks. Avais-tu vu ce Da Vinci Code?
Non, je ne l'ai pas vu. Encore un film...
Pourtant, là, tu peux pas dire que c'est un film, un vieux film, hein.
Non, mais bon, écoute, il y en a tellement des films, hein, on peut passer à côté de certains films.
Ensuite, eh bien, j'ai parlé d'un Casino Royale, celui où on va retrouver notre héros James Bond en 2006. Et si j'en parle aussi, c'est parce que Martin Campbell fait tourner pour la première fois dans le rôle de 007 Daniel Craig, aux côtés d'Eva Green et de Mads Mikkelsen. Donc, c'est ce qui va un petit peu permettre de nous faire connaître mieux Daniel Craig dans le rôle de 007. Alors, pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme international, le CIF, pas. Et pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Bond va devoir le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royal, d'où le titre. Et la très belle Vesper, attachée au trésor, l'accompagne afin de veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent de l'État britannique, hein, quand même, qui lui sert de mise, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors que Bond et Vesper s'efforcent d'échapper aux tentatives d'assassinat du chiffre et de ses hommes, d'autres sentiments vont bien sûr surgir entre le bel espion et sa complice, ce qui ne va pas rendre les choses aisées pour leur mission. As-tu vu ce premier James Bond avec Daniel Craig ?
Oui, j'ai même été le voir au cinéma et c'est le dernier, je crois, James Bond que j'ai été voir au cinéma. Bah, c'était un bon James Bond, hein, j'ai trouvé, c'était sympa. On revient un peu aux origines du personnage, donc c'est intéressant.
Bah, moi, j'ai accroché après, c'est marrant. Au départ, j'avais du mal à me faire à ce nouveau James Bond. Et puis après, au fur et à mesure des derniers James Bond, on attend d'ailleurs le dernier, on verra. Ce sera normalement la dernière apparition de Daniel Craig en James Bond. Mais maintenant, voilà, c'est pour moi, il fait partie des classiques des James Bond. On parle de classiques. Alors après, là, c'est pour ceux qui aiment les gros bras et puis les muscles, la testostérone et le bruit des moteurs. C'est le fameux Fast and Furious 2 qui est sorti.
En 2001,
oui. Et c'est là qu'on va retrouver Justin Lin à la réalisation et le regretté Paul Walker aux côtés de Vin Diesel et Michel Rodriguez, entre autres. Et alors là, c'est la saga qui est lancée et qui commençait par Une nuit tombée. On retrouve Dominique Toretto, alias Vin Diesel, qui règne sur les rues de Los Angeles à la tête d'une équipe de fidèles qui partage son goût du risque et sa passion de la vitesse et du culte des voitures de sport. Et ils vont se lancer dans des rodéos urbains d'une rare violence. Ces journées sont consacrés à bricoler, à relooker des modèles haut de gamme afin de les rendre toujours plus performants et plus voyants pour les fameuses courses illicites où de nombreux candidats vont s'affronter sans merci sous le regard de groupies complètement folles. Et donc, à la suite de plusieurs attaques de camions, la police de Los Angeles va décider d'enquêter sur le milieu des street racers et vont envoyer Brian, un jeune policier qui est chargé d'infiltrer la bande de Toretto et qui figure avec celle de son rival Johnny Tran au premier rang des suspects. Donc début de l'aventure, bon après on va rajouter de plus en plus de cascades, de plus en moyens, voilà, bon comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le film où on débranche le cerveau et puis on se délecte des courses, des cascades, bon les histoires sont plus ou moins toujours les mêmes, mais bon voilà, ça plaît à une certaine catégorie de spectateurs, donc ne boudons pas leur plaisir. Tu as vu Fast and Furious, je pense.
J'ai vu Fast and Furious. Écoute, faut prendre ce film pour ce que c'est. Un film où on voit surtout des courses-poursuites de voitures. Sinon, voilà, le premier était pas mal. Après, on en est, je crois, au 8 ou au 9. Ça suffit, quoi.
Oui, plus les séquelles, voilà. Enfin, les spin-offs. Voilà, bon, c'est vrai que... Après, ça fait une surenchère de gros bras. Voilà, bon.
Et puis, avec le décès de Paul Walker, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là, à ce moment-là, en fait.
Oui, oui, oui. Puis de le mettre en incrustation pour faire du chiffre. Seulement de le dire. Enfin, bon, voilà, on va pas bouder un film, hein. Il y a toujours des aficionados, donc... Eh bien, je terminerai cette liste avant de passer à la musique, aux Infiltrés de 2000, de Martin Scorsese, où on retrouvait Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, rien que ça. Eh bien, comme d'habitude, une affaire de truand, hein, avec Scorsese, il est très fort là-dedans. Eh bien, ça se passe à Boston, une lutte sans merci va opposer la police à la pègre irlandaise pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello. La police infiltre son gang avec un bleu issu des bas quartiers qui s'appelle Billy Costigan. Tandis que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant Colin Sullivan, il va entrer dans la police au sein de l'unité des enquêtes spéciales chargée d'éliminer Costello. Un agent double, Colin, informe Costello des opérations qui se trament contre lui. Risquant à tout moment d'être démasqué, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leur repère et leur identité. Flic ou voyou, hein, ils savent plus vraiment où ils en sont. Traquenard et contre-offensive vont s'enchaîner jusqu'au jour où chacun se rend compte qu'il héberge une taupe. Donc une course contre la montre va s'engager avec un seul objectif, découvrir l'identité des taupes. sous peine d'y laisser sa peau. Donc, Les Infiltrés, un film sur la mafia, vraiment, et puis la police, hein, voir un petit peu les gens qui font des doubles jeux. J'avais trouvé ce film vraiment bien documenté et vraiment intéressant. Puis en plus, on va pas bouder le casting. David ?
Oui, je l'ai vu, un très bon film, hein, franchement. Leonardo DiCaprio avec Martin Scorsese, pour l'instant, j'ai pas été déçu.
Eh bien, comme je vous avais promis, petite pause musicale. Alors, ça sera celle d'un des films que j'ai adoré, film de zombies de contamination, hein, en séjour de virus. Ben, regardez, si vous pouvez, 28 jours plus tard, de 2002, de l'excellent Danny Boyle, où on retrouvait Cillian Murphy et Naomi Harris dans les rôles. Donc, une histoire d'invasion de gens qui commencent par des bons sentiments et qui finissent par une épidémie galopante. Je vous en dis pas plus, allez découvrir ce film et sa superbe bande musicale dont David va nous passer un extrait. Eh bien, nous allons continuer cette dernière partie des films classiques des années 2000-2010 par un petit peu d'humour et d'horreur, puisque c'est Shaun of the Dead de 2004 de Edgar Wright avec Nick Frost et Simon Pegg, le duo qui nous a donné tant de films avec un humour britannique, surtout ce fameux humour noir, et en utilisant un peu le fantastique, l'horreur ou le policier, comme dans Hot Fuzz par exemple. Mais là, c'est bien de Shaun of the Dead, hein, nous allons parler aujourd'hui. L'histoire, c'est à presque 30 ans. Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie, hein. C'est un glandeur, on peut le dire. Entre son appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Lee, sa petite amie, n'a pas vraiment beaucoup de place pour lui, quoi. Alors, elle voudrait que Shaun s'engage vraiment avec elle. Et elle supporte de moins en moins de vouloir avoir cette vie un petit peu de traînard. Donc, à un moment, en colère, elle décide de se consacrer un peu à leur couple. Et Liz dit, bon, bah, si tu décides de pas prendre plus de temps pour moi, bah, elle dit, on va rompre. Alors, Shaun est décidé à tout réparer, bien sûr, parce que, mis devant le fait accompli. Et tout à coup, bah, il y a une invasion de zombies qui déferle sur Londres. Et même si la ville devient un véritable enfer, retanché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable à Liz et au monde entier. Donc, super parodie de films de zombies, comme je disais. On rigole beaucoup plus qu'on a peur. Et voilà, et comme je disais, on a vu maintenant Nick Frost et Simon Pegg, aussi bien en duo que dans des séries télé, que dans James Bond. On a vu aussi dans Mission Impossible. Enfin, l'un comme l'autre, ils se taillent une superbe carrière, et quand ils sont tous les deux, c'est vraiment détonnant. As-tu vu ce Shaun of the Dead ?
Oui, je l'ai vu. Très bon film. C'est vraiment sympa, sympa. Et puis, je voulais rajouter pour Simon Pegg et Nick Frost, bien sûr, Hot Fuzz, qui est génial. J'adore ce film.
Ce que j'ai dit, Hot Fuzz. Le fameux polar bien déjanté. Ouais.
Et puis le dernier pub. Ouais,
bon, après, il y a eu le dernier pub avant la fin du monde aussi.
Il est bien marrant aussi, ouais, carrément.
Qui est bien délirant. Ouais, on a tout ces... Non, mais c'est vrai qu'ils sont, vraiment, vraiment très doués. Et ils ont remis un petit peu. Il y a tout un tas de films anglais comme ça qui sont passés vraiment en utilisant un petit peu les modes. Je pense que là, les zombies. Il y en a des fois, c'est au niveau des extraterrestres ou Cockney contre zombie aussi, dans la même veine. Et
puis, il y a vraiment un style, hein, un style anglais un peu décalé et tout ça. Super sympa, quoi.
On va partir dans un autre style. Alors là, c'est plutôt le historical, comme dirait, pas hysterical, qui était aussi le titre d'un film. Donc, c'est le Apocalypto de 2006. De Mel Gibson avec Roddy Youngblood et Raoul Trujillo qui sont eux-mêmes d'origine amérindienne. Donc c'est un film un peu casse-gueule parce qu'en fait tout le film est sous-titré et il parle dans les langues qui ont disparu, des langues amérindiennes. Donc ça nous parle de l'Amazonie, mais aussi de sacrifices, de grandes pyramides, des prêtres et tout ça. Donc un sujet que Mel Gibson en général traite assez crûment, hein, on se souvient de Braveheart ou The Patriot, et voilà, donc l'histoire, c'est dans les temps turbulents précédant la chute de la légendaire civilisation Maya, un jeune père porteur de grande espérance, chef de son village, qui s'appelle Pat de Jaguar, vit une existence idyllique, donc entre chasse, pêche, enfin une vie bien tranquille dans la jungle, quand soudain, sont attaqués par les Mayas qui viennent pour les capturer et les emmener à travers un périlleux voyage à travers la jungle pour être offert au sacrifice aux dieux de cette cité Maya. Donc ils découvrent un monde régi par la peur et l'oppression dans lequel une fin déchirante les attend inéluctablement. Hein, à cette époque-là, on s'embarrassait pas des droits de l'homme ou des choses comme ça. Heureusement, ça a en partie bien changé. Donc, poussé par l'amour qu'il va porter à sa femme, sa famille et son peuple, il devra affronter ses plus grandes peurs en tentant d'échapper et de retourner chez lui. C'est toute cette épopée qu'on a le droit. Moi, j'avais bien aimé ce film. Au départ, je m'étais dit, bon, j'adore Mel Gibson, mais je m'étais dit, oulala, un film On dit, allez, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, on est vraiment pris. On en oublie le sous-titrage et les décors sont fabuleux. Et comme d'habitude, bah, ça ne manque pas d'action quand Mel Gibson est à la caméra. As-tu vu Apocalypto?
Eh bien non, mais ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je le regarde. Parce que je suis sûr que ça va m'intéresser énormément. Ça.
Oui, toi qui aimes un peu l'aventure. Et, ouais. Et c'est vrai que c'est poignant. Puis bon, c'est vrai que c'est un sujet... Les Mayas, on n'a pas énormément de films qui traitent du sujet. Donc c'était assez intéressant. On passe à un autre sujet, on reste là plus dans le fantastique horreur avec Underworld de 2003 de Yann Wiesman avec entre autres Ken Beckinsale. C'est le premier opus d'une saga qu'on suivra par la suite. Alors c'est l'histoire là de Selene, une guerrière vampire puissante dans la lutte qui l'oppose depuis des siècles avec son peuple des vampires à celui des lycans, les fameux loups-garous. Elle est reconnue être l'une des tueuses les plus efficaces jusqu'au jour où, bien sûr, elle tombe amoureuse de Michael Corvin, un humain pris malgré lui dans l'affrontement entre les deux clans, puisqu'il avait été mordu par l'un des loups-garous et va devenir un loup-garou lui-même. Donc cette espèce de Roméo et Juliette fantastique entre passion et devoir, Selene va devoir choisir son camp. Donc, une bande originale musicale qui était signée Evanescence d'ailleurs, donc qui avait été un petit peu aidée au succès du film. Bon, bah ça, on est dans le mythe du vampire et du loup-garou. Hein. Donc, régulièrement, ça repart au cinéma et là, ça avait relancé un petit peu. On a vu Blade aussi. Voilà, donc c'est le genre de saga. Si vous aimez les vampires et les loups-garous, c'est pour vous. As-tu vu ce Underworld?
Oui, je l'ai vu. Oui, c'était sympa. Après, comme tout film sympa, de faire 50 000 suites, au bout d'un moment, je trouve que ça s'essouffle un peu. Mais le premier était bien, franchement. Et puis, ça m'étonne pas pour Evanescence, parce que vu que c'est un style un peu rock, gothique, un peu noir, un peu sombre des fois, ça allait très bien avec ce film-là.
J'avais bien aimé, moi, le second opus. Après, j'avais moins aimé, mais le second opus qui nous racontait les origines, justement. Donc,
oui. Mais le 2 était bien aussi.
J'avais bien aimé ce côté historique. Enfin, nous allons passer à quelque chose de plus réel, mais aussi horrible. Pearl Harbor, un film de guerre de 2001 de Michael Bay, où on retrouvait Ben Affleck, Josh Arnett et Kate Beckinsale. Tiens, elle était encore là, elle. Et donc, un film qui nous raconte, bien sûr, l'histoire du fameux désastre de Pearl Harbor où les Japonais avaient attaqué le port américain, ce qui a entraîné l'entrée en guerre des États-Unis à ce moment-là pour cette Seconde Guerre mondiale. Alors, l'histoire, c'est que, amis depuis la plus tendre enfance, Rex McCauley et Danny Walker sont deux brillants pilotes de l'armée américaine, de l'armée de l'air, quand la Seconde Guerre mondiale a déjà commencé, mais les États-Unis hésitent à s'engager dans les hostilités, mais Raph succombe en pensant là au charme d'Evelyn Johnson, une jeune infirmière. C'est le coup de foudre, mais ce dernier décide de lui un petit peu devancer l'appel en allant combattre aux côtés des Britanniques. Hein. Il n'a pas attendu que les Japonais attaquent. Donc Evelyn et Danny sont quant à eux transférés sur la base américaine de Pearl Harbor. Là, ils mènent une existence plutôt paisible qui va basculer lorsqu'ils apprennent la mort de Raph. Evelyn partage son chagrin avec Danny et l'amour va un petit peu renaître, mais à travers son ami et elle. Mais Raph est pourtant vivant et on croit qu'il a disparu, mais non, c'est ça le drame à l'américaine. Et en cette journée du 7 décembre 41, les retrouvailles et les explications vont devoir être reportées à plus tard, puisqu'au même moment, près de 200 bombardiers japonais surgissent dans le ciel de Hawaï pour une attaque surprise et qui va couler une grosse partie de la flotte américaine et, comme je disais, entraîner l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. As-tu vu ce film?
C'est un bon film, je trouve. Après, l'histoire d'amour, voilà quoi. Mais sinon, oui, c'est sympa. Les scènes d'attaque des Japonais sont très très bien faites. Et franchement, ouais, c'est intéressant.
Voilà, pour les gens qui aiment bien les reconstitutions de films de guerre, je pense que... Bon, pareil, un film plutôt à voir sur grand écran... Comme tu disais, c'est vrai que ça donne, avec un bon son, un bel écran, c'est quand même, c'est des films qui demandent du grand spectacle. Un autre film qui demande du grand écran, du grand spectacle, et qui a été une des révélations qui a un petit peu révolutionné à nouveau les films de science-fiction après les Star Wars, eh bien, c'est Avatar, en 2009, de James Cameron, avec Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, les gens passent les meilleurs. Donc, Avatar, c'est l'histoire d'un ancien marine américain qui va se retrouver plongé dans l'environnement hostile d'une planète qui abrite de nombreuses formes de vie exotiques. Et en fait, il est un petit peu une expérience parce que il va justement se retrouver dans une position d'avatar, un humain pris dans un corps étranger. Il va être déchiré entre deux mondes, devra livrer une bataille pour assurer sa propre survie et celle des indigènes. Donc, une histoire qui nous parle un petit peu à travers tout ce fantastique du problème du handicap, aussi de la condition écologique des peuples indigènes. Enfin, une bonne parabole qui avait été vraiment bien faite. Et cette utilisation de la 3D qui, là, vraiment avait son intérêt. On attend la suite depuis quelques années, c'est un petit peu l'arlésienne, mais on sait qu'elle est tournée, mais bon, Cameron étant un perfectionniste, on aura à attendre pour voir la suite de ce que moi j'avais vraiment trouvé comme un chef-d'œuvre qui avait vraiment révolutionné l'histoire du cinéma, et surtout du cinéma de science-fiction fantastique. Pour toi, David.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Après, oui, l'épisode 2 et l'épisode 3 même sont déjà tournés. Mais Cameron fait plein de choses par rapport à l'écologie et c'est pour ça qu'à chaque coup, il fait attendre pour le film, quoi.
Et on terminera par un film qui me touche particulièrement et qui va te toucher et que tu as vu aussi, je suis sûr. Et oui, ça touche à la radio et spécialement aux radios libres, à la naissance des radios libres. Donc un film vraiment culte pour moi, c'est le Good Morning England de 2008 de Richard Curtis avec Philip Seymour Hoffman, Ricky Fans, Nick Frost, tiens, on le retrouve lui aussi. Alors donc c'est l'histoire de Carl, un jeune garçon qui est envoyé chez Quentin, son parrain. Mais il s'avère que Quentin est le patron d'une radio pirate qui émet sur un bateau en pleine mer. Et donc, il y a tout sous les émois de ce garçon qui va découvrir la musique, le rock'n'roll, les filles, enfin, une vie un petit peu dissolue à bord de ce bateau. Et quand on sait que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est un biopic. Donc, on voit les difficultés des vraies radios libres qu'il y avait à l'époque. Hein, parce que nous, Radioactive, on reste une radio relativement indépendante. Et quand on voit que maintenant on a des groupes, on citera pas de nom, mais on les aura tous reconnus, qui bon bah c'est un petit peu un investissement financier qui a été fait et ça a un peu perdu un peu l'esprit de liberté, de différence des radios libres. Et donc pour moi, ce film est vraiment un clin d'œil à toutes les radios associatives qui existent hein, dans le coin. Il y en a pas mal. On aimerait voir, on a la chance d'avoir des très bonnes radios. On peut dire indépendante, hein, c'est pas des gros groupes. Donc voilà, allez voir ce film, ça vaut vraiment le coup, louez-le et vous allez passer un bon moment. En plus, sans parler bien sûr de la bande originale qui est vraiment géniale, puisqu'on passe tous les tubes de l'époque. Je pense que t'as vu là, je te fais pas un affront. De moment, si t'as vu Good Morning England.
Non, quand même pas. Là, franchement, c'est super intéressant. Hein. C'est vraiment à voir pour tous ceux qui peuvent s'intéresser au monde de la radio en général, ouais, faut vraiment le voir.
En plus, le choix des acteurs est vraiment très 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 bon. Eh bien, nous allons passer au coup de cœur vidéo en attendant, comme d'habitude, de retrouver nos rubriques classiques dès que la situation le permettra.
Coup de cœur vidéo.
Alors, les coups de cœur vidéo, c'est Gran Torino de 2008, de et avec Clint Eastwood. Alors, c'est l'histoire de Walt Kowalski, un ancien de la guerre de Corée, donc un homme inflexible, amer, pétri de préjugés racistes et vraiment un vieux con, quoi, on peut le dire. Et donc, après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, il occupe ses journées à faire du bricolage, à boire quelques binous, à traîner dans son quartier. Mais avant de mourir, sa femme exprime le vœu qu'il aille à confesse. Mais Walt n'a rien à dire, ni à personne, ni à qui parler. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait confiance qu'à son flingue, un fameux M1, toujours prêt à l'usage qu'il entretient, hein, comme s'il était encore en hier. Alors, ses anciens voisins ont déménagé ou sont morts depuis longtemps, et son quartier est aujourd'hui peuplé d'immigrés asiatiques, qui, bien sûr, en tant qu'ancien du Vietnam, il méprise. Et Walt ressasse sans arrêt sa haine, enfin, et surtout à l'encontre de ses voisins, des ados hmong, latinos et afro-américains, qui croient faire la loi de ses propres enfants devenus pour lui des étrangers. Donc, Walt tue le temps comme il peut en attendant le grand départ, jusqu'au jour où un ado hmong du quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino. Et là, on va voir les changements peu à peu de cet homme qui va redevenir un petit peu plus normal, disons. As-tu vu ce film avec Eastwood? Et comme dirait Papy, fait de la résistance, parce que lui, il continue même âgé à tourner des films, et puis des bons films.
Ah oui, oui, c'est un très très bon réalisateur, c'est devenu un très très bon réalisateur, et puis on peut dire qu'il bosse avec son fils en plus à la musique sur ce film-là.
Oui, qui est un grand jazzman. Alors c'est marrant parce que, petite parenthèse rapide, entre le réalisateur humaniste et l'homme politique, parce qu'il a été maire de Carmel, et bon, il serait plutôt tendance républicain cow-boy, et par contre, il va aller faire des films de temps en temps plutôt humanistes, qui sont pas trop proches des idées démocrates, bien qu'aux États-Unis, la frontière entre démocrates et républicains n'est pas toujours évidente. Eh bien, et un autre film, alors que j'ai adoré, sur un sujet qui est traité là avec bienveillance, c'est Kingdom of Heaven de 2006 de Ridley Scott, où on trouvait Orlando Bloom, Liam Neeson et Eva Green, entre autres. Donc, ça se passe au temps des croisades. Donc là, un film, justement, qui montrait un petit peu que personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc, qu'il n'y a pas une religion supérieure à l'autre, qu'il y avait des chevaliers des deux côtés, et que c'était plus des guerres idéologiques de religion, plutôt que vraiment personne n'avait une raison, quand en plus on sait que toutes ces religions ont pratiquement les mêmes saints et se retrouvent dans la même région. On peut encore en douter quand on voit encore les batailles qui ont lieu de nos jours. Alors l'histoire, c'est celle de Balian, le forgeron, qui découvre que son père est un seigneur croisé peu avant que celui-ci ne meure et que ses terres à Jérusalem lui reviennent en héritage. Alors, il décide, suite à la mort de sa femme, de partir sur place pour se ranger aux côtés du roi Baudouin, qui était le roi de Jérusalem à l'époque, qui tente de maintenir justement un équilibre fragile entre les croisés et les troupes de Saladin qui était le chef des musulmans. Et ben, bien sûr, il y a toujours des gens qui veulent la guerre, hein, ça n'a pas changé. Et donc, de son côté, Balian, lui, essaye de combattre pour le bien et pour la paix, et donc malheureusement pour lui, le roi est mourant, et tous ceux qui s'opposent à lui en profitent pour essayer de tirer le pouvoir à eux, et donc on a un beau tableau de ce qui s'est passé à peu près dans ces époques, toujours avec le côté un petit peu romanesque des combats américains, mais je trouve que c'est Ridley Scott justement, et on l'avait vu dans La Chute du Faucon Noir, entre autres, quelqu'un qui sait un petit peu prendre de la hauteur par rapport à l'histoire et à son propre pays, et c'est tout à son honneur. As-tu vu Kingdom of Heaven?
Oui, je l'ai vu, c'est un très bon film, et je l'ai vu grâce à toi, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu m'en avais parlé.
Donc, nous voici enfin arrivés à la fin de ce cinépage 169 spécial Ciné 2000 classique, puisqu'on a été jusqu'aux années 2010. On verra, on fera peut-être un 2010-2020 pour clôturer un petit peu cette balade à travers le cinéma et ses classiques, étant donné que l'annonce qu'on nous a faite, très confinement encore, ne va pas nous aider spécialement à retrouver des conditions satisfaisantes pour pouvoir enregistrer. Mais en attendant de se retrouver avec nos rubriques et toute l'actualité avant-première et sortie cinéma de nos partenaires, les CGR, Centre et de Lyon, ainsi que les événements des autres cinémas, et retrouver enfin les joies de se retrouver devant le grand écran. Nous vous proposons de retrouver régulièrement sur radioactivefm.fr pour des nouveaux cinéphages et sérivores un peu différents, mais en espérant toujours satisfaire à travers eux notre passion du 7e art. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions, puisque l'équipe de Radioactive est toujours active, elle, hein, et elle vous propose plein de programmes en direct ou en podcast, et donc à consommer, bien sûr, comme nos films et BO, sans modération. À bientôt. Bye bye, bye.